plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonjour, bonjour. Il flotte déjà dans l'air comme un parfum de vacances, mais il flotte aussi dans l'air des choses bizarres. Je vous parlerai aujourd'hui du triangle maudit de la Burle, où se passent d'étranges crashs d'avions au centre de la France. Puis, enquête sur les ovnis, les dossiers secrets du KGB. Les hauts lieux mystérieux, étrange crash d'avion au centre de la France, le triangle maudit de la Burle. Dans la soirée du 1er mars 2011, un Mirage 2000 de l'armée française s'est écrasé à Saint-Oradour, près Croc, dans la région d'Aubusson, charmante bourgade de la Creuse, célèbre pour ses tapisseries. D'après les informations communiquées par la presse, le choc a été si violent que l'avion était enterré sous une dizaine de mètres de terre. Ce drame rappelle le crash d'un autre avion survenu à Neuvic, dans la Haute-Vienne, quelques années plus tôt. Décembre 2007. En effet, un Rafale est parti en piqué pour finir lui aussi enfoui sous plusieurs mètres de terre. Ces deux accidents tragiques nous ramènent alors à certaines rumeurs concernant une zone des Cévennes où de nombreux avions se sont écrasés mystérieusement depuis plusieurs décennies. Le triangle de la Burle. Alors ce triangle maudit se trouve entre Aubusson, dans la Creuse, Guéret et la Souterraine. Le 1er mars 2011, vers 21h20, un Mirage 2000 a soudainement disparu des écrans radars au-dessus d'Aubusson. Dans un journal local, le maire d'une commune voisine du crash explique qu'il a vu passer l'avion à grande vitesse et très basse altitude, ses feux de bord s'étant brusquement éteints, ce qui lui a donné le sentiment qu'il se passait quelque chose d'anormal. Une femme qui se trouvait dans une habitation proche de la zone du crash a déclaré pour sa part qu'elle avait ressenti comme un grand souffle qui avait ébranlé la maison, puis entendu une énorme déflagration. Dès le lendemain, le CIRPA a commencé de communiquer, comme c'est toujours le cas en de pareilles circonstances, afin d'apporter quelques précisions. Le Mirage effectuait une mission de reconnaissance de nuit à une vitesse d'environ 1100 km par heure en rasemote, environ 70 mètres du sol. Les corps des pilotes n'ont pas encore été retrouvés et la balise qui se met automatiquement en marche en cas d'éjection n'a pas fonctionné. Les deux pilotes disparus étaient âgés de 30 ans et très expérimentés, cumulant respectivement 1000 heures de vol pour le pilote et 900 heures pour le navigateur. Le ministre de la Défense à l'époque, Gérard Longuet, a pris la peine de se déplacer aux obsèques des deux soldats pour saluer leur mémoire et leur remettre la Légion d'honneur à titre posthume. Ceci est très exceptionnel. D'autres pilotes français sont décédés en mission d'entraînement sans pour autant recevoir de décoration, le risque faisant partie de leur métier. Cette médaille posthume et la présence du ministre ne serait-elle pas le signe d'une reconnaissance de l'importance du sacrifice? N'est-ce pas la révélation implicite que leur mission était bien plus qu'un simple exercice d'entraînement traditionnel? 4 ans auparavant, dans la fin d'après-midi du 6 décembre 2007, un autre crash d'avion militaire s'est produit à Neuvic, dans la Haute-Vienne, à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau, au sud de Saint-Oradoux, près Croc. Un Rafale a lui aussi inexplicablement foncé en piqué vers le sol depuis une altitude de 4000 mètres à la vitesse de 800 km/h. On a retrouvé le cockpit à 25 mètres sous terre. C'est dire la violence du choc. L'enquête menée sur les circonstances de ce terrible accident a conclu que l'avion n'avait connu aucune défaillance mécanique et que le pilote, de 34 ans, n'avait pas été pris de malaise. Très expérimenté et comptabilisant plus de 1500 heures de vol, le pilote avait obtenu en 2006 la qualification la plus élevée, à savoir celle de chef de patrouille. Finalement, les rapports d'enquête ont conclu qu'il avait été victime d'une désorientation spatiale. En raison d'un dysfonctionnement de l'oreille interne et en l'absence de visuel, il aurait cru voler à l'horizontale alors qu'il se trouvait en réalité à la verticale, en train de foncer vers le sol. Étrange, car les instruments de bord de l'appareil, véritable petit bijou de technologie, auraient dû prévenir le pilote. Ont-ils été eux-mêmes affectés par un problème technique ? Dès le lendemain du crash, l'armée de l'air a pris toutes les précautions possibles pour procéder au ramassage des moindres débris. Un périmètre de 19 hectares a alors été dessiné autour du lieu de l'impact. D'abord entreposés sur le camp militaire de la Courtine, 300 tonnes de terre ont finalement quitté la Creuse pour être étudiées et dépolluées. Au final, les experts ont déclaré que la zone ne présentait aucun danger. Alors, hypothèse exotique. Il existe des points communs à ces deux accidents. Les pilotes chevronnés, jeunes et en pleine santé, survolaient de nuit des secteurs assez proches de la même région. Dans les deux cas, leurs appareils se sont mis à foncer à plein régime vers le sol sans qu'ils aient le temps ou même l'idée de s'éjecter. Les scénarios de ces crashs soulèvent bien des questions. Ainsi, pour ce qui concerne le tragique accident du Mirage 2000, il a été expliqué que son empreinte avait disparu des écrans radars, apparemment à la hauteur d'Aubusson, soit 20 km environ avant l'impact. Selon le maire du village de la Villette, les feux de bord de l'appareil se sont éteints soudainement. Panne électrique. Se retrouver brusquement sans instrument à une telle vitesse et à une aussi basse altitude, le crash était inévitable. Mais pourquoi a-t-on perdu la trace radar de l'appareil une minute avant qu'il ne frappe le sol? Ce qui va suivre à présent se doit d'être pris avec la plus extrême prudence et doit être considéré comme une vision différente du contexte de ces deux tragiques accidents. Il s'agit d'une hypothèse étayée par des éléments concordants qui ne sont en aucun cas des preuves, mais permettent d'échafauder une autre interprétation des faits, disons plus exotique. Notre démarche s'inscrit évidemment dans le respect de la mémoire des victimes et de leurs familles. Pour commencer, notons que ces deux crashs se sont produits au-dessus d'une région réputée pour son activité tellurique, relativement importante, en raison d'un sous-sol volcanique. Des anomalies électromagnétiques fréquentes ont souvent été signalées par de nombreux pilotes qui survolaient la région et qui ont vu brusquement leur instrument de vol s'affoler ou tomber en panne. Ces pannes et dysfonctionnements multiples sont-ils liés à la malchance, au tellurisme ou à autre chose? Toujours est-il que la plupart des pilotes d'avions de tourisme de la région qui doivent survoler le triangle et ses environs s'avouent méfiants et disent prendre leurs précautions en vérifiant scrupuleusement leurs instruments de navigation et leurs moteurs avant de décoller. Dans leur grande majorité, ils préfèrent éviter le survol du mont Mézinc et de ses alentours quand cela ne s'impose pas. Notons également que le réseau France Télécom est affecté de pannes inexplicables depuis les années 2000. Tiens, j'ai dit tiens. Les téléphones se mettent parfois à sonner dans le vide. Certaines lignes sont constamment en dérangement sans que les causes en soient trouvées. Les responsables du réseau EDF de la région s'arrachent les cheveux, car il est très fréquent que, lors d'orages violents, les poteaux de soutien des fils électriques soient coupés en deux ou pulvérisés par la foudre, du jamais vu. À diverses reprises, des vaches ont été retrouvées électrocutées dans les prés ou dans leurs étables alors que le temps n'était pas à l'orage. Comme c'est souvent le cas dans ces secteurs souvent affectés de perturbations électromagnétiques, évidemment des ovnis ou autres phénomènes lumineux aériens inexpliqués ont été fréquemment observés. Le pic des manifestations a eu lieu durant la grande vague de 1954 où les observations ont été très nombreuses et particulièrement dans la zone où se sont produits les crashs. Nous ne pouvons donc pas exclure la possibilité que les pilotes aient été confrontés à un dysfonctionnement de leurs instruments de bord, ainsi qu'à une panne électrique brutale en relation avec ces phénomènes. Une semaine plus tôt, le 23 février 2011, un petit avion de tourisme s'était écrasé près de Saint-Brice-sur-Vienne, à l'ouest de Limoges. Le jeune pilote étudiant en médecine, âgé de 20 ans, est décédé sur le coup. L'unique témoin de l'accident a vu l'appareil partir soudainement piqué en pleine vitesse vers le sol. Les premiers commentaires révèlent qu'il n'y aurait pas eu de défaillance technique ou de panne de carburant. En outre, l'avion, un Robin D400, considéré comme fiable, est capable de planer et de se poser en cas de panne majeure. Aux dernières nouvelles, l'enquête privilégiait la thèse du suicide. Certaines sources ont avancé en effet que le jeune pilote était dépressif et des indices retrouvés sur les lieux du crash permettraient de penser qu'il se serait suicidé. Bon, peut-être. Ou peut-être pas. Une fois de plus, l'accident est survenu dans une zone d'activité tellurique significative, non loin des alignements de mégalithes de Sieux. Depuis des décennies, des ovnis ont régulièrement été observés dans le secteur. Rappelons enfin que, dans l'après-midi du 14 juillet 2009, trois personnes ont péri dans l'explosion subite d'un petit avion de tourisme au-dessus de Nouhan, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est d'Aubusson. Les causes de l'explosion n'ont toujours pas été élucidées. Les causes de ces différents accidents sont peut-être tout parfaitement explicables d'un point de vue rationnel, et c'est peut-être pur fantasme que de vouloir y trouver une explication surnaturelle. Il sera en revanche plus difficile de trouver des explications rationnelles et cohérentes à la pléthore d'accidents aériens qui se sont produits un peu plus au sud, majoritairement en Velay et en pays ardéchois. Le triangle maudit de la Burle. Il existe en effet au cœur des Cévennes, dans un triangle délimité par le mont Mézenc, le massif du Pilat et le puy en Velay, un véritable poteau noir où les catastrophes aériennes se succèdent depuis plusieurs décennies. Il s'agit du triangle de la Burle, du nom d'un vent particulièrement puissant qui engendre des conditions météorologiques souvent extrêmes, notamment durant l'hiver dans cette région au relief tourmenté. Dans ce triangle affecté d'un fort tellurisme, de nombreux accidents d'avion se sont produits. Le premier recensé est survenu dans la nuit du 3 au 4 novembre 1943. Un bombardier Halifax, venu parachuter du matériel au réseau de résistance locaux, s'est écrasé sur le rocher de Bourg-Boulas sur le territoire de la commune de Marcolles-les-Eaux. Il n'y eut qu'un seul rescapé, le mitrailleur. Lorsqu'il fut en mesure d'être interrogé, il expliqua que, durant les instants précédant le crash, le bombardier, pris dans de forts remous, s'était mis à tanguer dangereusement, que ses instruments et commandes avaient connu de brusques pannes et qu'une chaleur intense suivie d'un froid glacial avait envahi la carlingue peu avant le choc. Deux témoins qui avaient observé depuis le sol les évolutions de l'Halifax ont déclaré qu'il s'était mis à tourner en rond tout en perdant de l'altitude, sa carlingue entourée de feux multicolores. Ce ne pouvait en aucun cas être ses feux de position. Compte tenu de sa mission ultra secrète, l'appareil volait tout feu éteint. Deux autres accidents ont particulièrement marqué les esprits. Tout d'abord, citons le crash du bimoteur Dove de la compagnie anglaise Skyways, survenu le 13 mai 1948 et qui coûtait la vie à Kathleen Kennedy, Cavendish, sœur cadette du futur président des États-Unis, John Kennedy. Puis il y a évidemment l'accident du Nord 262, le 22 janvier 1971. Ce crash a posé bien des interrogations à l'époque. D'une part, il a décimé en quelques minutes l'élite française de la recherche nucléaire civile et militaire de l'époque. 21 personnes ont péri dans cette tragédie, dont 7 éminents chercheurs. D'autre part, une rumeur s'est propagée qui sema le trouble à l'époque. Dans les décombres de l'appareil, les enquêteurs auraient retrouvé un 22e corps difficilement identifiable. Était-il difficile à identifier en raison de ses blessures? ou parce qu'il ne semblait pas humain? Il n'y a évidemment pas de réponse à cette question. Toujours est-il que le périmètre du crash a été un certain temps fermé au public et gardé par l'armée. La raison officielle étant que l'on recherchait une serviette contenant des documents top secrets. Selon les sources, depuis 1943, il y aurait eu dans ce triangle maudit, ou ses abords, entre 40 et 60 accidents d'aéronefs civils et militaires dont les causes sont restées inexpliquées. Le phénomène touche particulièrement le département de l'Ardèche. Pour ne citer que les cas les plus troublants, le 23 juin 1944, un Dornier 217 de la chasse allemande s'écrase à Isagnas et ses pilotes ne sont jamais retrouvés. Le 20 août 1944, un chasseur Hellicat quitte soudainement sa formation pour partir en piqué vers le sol et s'écrase près du village de Saint-Bourré-le-Froid. Les causes de sa chute demeureront inexpliquées. Le 20 août 1945, un B-26 perd de l'altitude et s'écrase sur le massif des Coirons, où s'écrasera, trois ans plus tard, le Dove transportant Kathleen Kennedy. Le 12 décembre 1952, un Nord 1402 anglais s'écrasera à quelques centaines de mètres du lieu d'impact du Dove. Décidément, le lieu attire les oiseaux de fer comme un véritable aimant. Le 13 janvier 1956, un Mistral 535 rase les toits de Saint-Maurice d'Ardèche à très basse altitude et s'écrase. Dans la même journée, un second avion de chasse est retrouvé disloqué à 2 ou 3 km du premier crash. A priori, les deux accidents ne seraient pas liés. Le 12 août 1963, un étendard pique brusquement vers le sol et s'écrase près de Montpezat sous Bozat. Le pilote aura tout de même eu le temps de s'éjecter avant l'impact. Le 5 novembre 1963, un Javelin de la Royal Air Force subit une panne soudaine de réacteur et rase les toits de la commune de Jaurac en détruisant plusieurs habitations. Quatre villageois seront retrouvés tués sous les décombres et il y aura de nombreux blessés. Miraculeusement, le pilote en réchappe indemne, mais il se murmure que son navigateur n'aurait jamais été retrouvé. Le 31 décembre 1964, ce sont deux chasseurs F-4 qui se percutent au-dessus du mont Mézinc. Ces pilotes seront retrouvés morts attachés sur leur siège à quelques centaines de mètres des épaves de leurs avions. Le 5 septembre 1980, 8 personnes périssent dans l'accident d'un Hercule C-130 de l'armée du Koweït près du village de Saint-Vincent de Banse. Et les crashs vont continuer de se succéder jusqu'à celui d'un avion de tourisme le 28 décembre 2006 causant le décès de ses deux passagers. Selon les témoins, l'avion avait pris feu avant de s'écraser dans une forêt de la commune de Saint-Cernin. Le pilote connaissait pourtant le secteur pour l'avoir survolé des milliers de fois. Mais ce qui accompagne les crashs, ce sont certains phénomènes lumineux. De nombreux phénomènes mystérieux, pour ne pas dire surnaturels, se sont produits dans ce triangle maudit. Ainsi, des aéronefs signalés disparus que l'on ne retrouvera jamais, comme ce petit Bonanza qui s'éclipse définitivement sans laisser de traces en mai 1970. Plus étrange encore, le 12 décembre 1980, près du mont Devey, des habitants proches de villages ou hameaux voisins, dont celui de Bent, aperçoivent un petit avion de tourisme blanc à bandes rouges qui semble en difficulté. Deux gendarmes l'apercevront aussi. Une colonne de fumée s'élève à flanc de colline, mais l'avion ne sera jamais retrouvé, ni d'ailleurs signalé comme étant disparu. Deux mois plus tard, en Ardèche, le même scénario se reproduit à Clément avec un petit avion d'apparence identique, blanc à bandes rouges, que les témoins voient soudainement chuter au sol. Là encore, les secours se précipitent sur les lieux, mais ne retrouvent aucune trace de l'appareil. S'agirait-il d'un avion fantôme qui ressurgit ça et là au fil du temps? Ces crashs observés par divers témoins, mais dont les recherches ne permettent pas de retrouver les appareils, sont communément désignés comme des crashs de rien. Ils se sont produits dans diverses régions du globe, dans certaines sinistrement célèbres, comme le fameux triangle des Bermudes. Alors, s'agit-il d'une hallucination collective ayant affecté les témoins, ou bien ces appareils provenaient-ils d'une autre dimension, où ils sont repartis un moment plus tard? Il y aurait-il une distorsion de l'espace-temps ou une sorte de porte spatio-temporelle dans ce secteur de l'Ardèche à l'origine de ces stupéfiantes apparitions? Oui, je sais, ça paraît un peu loufoque. Comme on peut s'en douter, ces cas ont un peu tourneboulé les esprits, les populations locales et surtout ceux des témoins de ces crashs de rien. Il y a de quoi. De nombreux avions ont été observés un peu avant ou après leur crash, entourés de lumières pâles ou multicolores, de boules roses, quand ce n'était pas carrément des ovnis de type soucoupe ou triangle. Que dire par exemple de ces trois objets volants non identifiés qui ont croisé un appareil le 22 août 1969 au col de Goudouze, quelques minutes avant qu'il ne s'écrase, tandis qu'un autre avion affecté d'une brusque panne de moteur réussissait à se poser en catastrophe. Le même jour, deux chasseurs devaient se percuter en plein vol dans le même secteur. L'année 1969 s'est d'ailleurs révélée particulièrement cruelle pour les aéronefs. Le 23 juin, c'est un petit Jodel poursuivi par des cigares bourdonnants qui a soudainement chuté comme une pierre. Le 21 novembre, le pire a été évité sur la zone de Pierreville. En croisant quatre disques volants lumineux, trois avions de chasse ont été confrontés au dysfonctionnement de leurs instruments de radioguidage et de leurs réacteurs. Le 1er juin 1971, un pilote est décédé dans le crash de son Cessna sur le territoire de la commune de Saint-Front, réputée pour être survolée par des machines volantes et soufflantes. Légende des témoignages passés de ce fameux triangle. L'activité OVNI a toujours été importante dans cette région, où de nombreuses observations ont été faites, dont la plus ancienne date du XVe siècle. En janvier 1420, les habitants de Puy-en-Velay ont éprouvé une grosse frayeur. Une énorme étoile très brillante venue à vive allure du triangle maudit a stationné au-dessus de leurs habitations durant un long moment. Au mois de juillet de la même année, c'est une croix de lumière qui est venue survoler leur bonne ville. Notons au passage que le Puy-en-Velay, grand sanctuaire chrétien, a été le témoin des premières apparitions mariales. Au IIIe siècle, la Vierge serait apparue à une femme souffrante de fièvre, lui conseillant d'aller s'allonger sur la table du dolmen du Rocher d'Anis pour retrouver la santé. Cette ancienne construction druidique est devenue la table des fièvres. Au Vème siècle, une autre femme souffrant de paralysie sera encore guérie par la Vierge qui lui apparaît soudainement. Miracle ou autre phénomène? Comme chacun sait, l'on commence depuis un certain temps à se poser de sérieuses questions sur le lien qu'il pourrait y avoir entre certaines apparitions mariales, dont Fatima, et le phénomène OVNI. Les témoignages contemporains sont très nombreux. De nombreuses personnes disent en effet avoir observé des boules de feu qui dévalaient les pentes et les champs à vive allure, certaines d'entre eux ayant connu la peur de leur vie en se voyant poursuivis par ces sphères dont certaines étaient énormes. L'un d'eux a même fini par se faire rattraper par l'une d'elles. Il a expliqué par la suite qu'il s'était soudainement retrouvé entouré d'une lumière puissante et aveuglante dont il avait d'ailleurs eu beaucoup de mal à se remettre dans les instants qui ont suivi la disparition du phénomène. Mais sa surprise a été surtout de constater qu'il n'avait rien ressenti de particulier lorsqu'il s'était retrouvé dans la sphère. Pas même un dégagement de chaleur. Certains habitants de la région évoquent aussi l'époque du Moyen-Âge, où certains lieux auraient été le théâtre de pluies de pierres, de crapauds ou de sang. Dans le folklore, le diable est très présent. Les noms de certains lieux, dits en Ardèche et en Haute-Loire, en témoignent. Par exemple, dents du diable, pas de l'enfer, pont du diable, chaise ou fauteuil du diable, etc. Le mont Mézinc, où tant d'avions se sont écrasés, était autrefois la réputation de locus terribilis, hanté par la malédiction des druides. Dans des temps reculés, ce promontoire était un lieu de culte important. La légende raconte qu'un trésor en or serait caché au sein de ses entrailles. Ni plus ni moins qu'une table d'or et d'autres objets tout aussi périlleux qui proviendrait du sac du temple d'Apollon lors du pillage du sanctuaire de Delphes par les tribus celtes en 279 avant Jésus-Christ. Il se murmure aussi que chaque nuit de Noël, le flanc de la montagne s'ouvre et dévoile un conduit qui mène à la chambre du trésor. Que ceux qui sont allés y voir n'en sont jamais revenus. Durant cette nuit sacrée, la table d'or s'échapperait du mont et s'élèverait dans les cieux en émettant d'étranges lueurs. Alors, légende locale ou interprétation folklorique d'une réalité. Ce qui est certain, c'est que les traces des druides sont partout dans cette région où les mégalithes pullulent. Rien qu'autour du Puy-en-Velay, il y en aurait plus de 100. Ne parlons pas de l'Ardèche, où ils sont poussés comme des champignons. Ils s'en passent aussi de belles sur les pentes du mont Pila, considérées comme l'une des pointes du triangle maudit. Outre les mégalithes, on trouve ici des amas naturels de roches aux propriétés étranges. Des légendes anciennes évoquent des pierres volantes ou des pierres qui baillent. Près de Sainte-Croix, en Jarès, les roches du Marlin, précisons qu'un Marlin est un gros maillet, ont depuis toujours la réputation de faire perdre l'équilibre à certains promeneurs qui se sont plaints d'avoir reçu comme un formidable coup sur la tête qu'ils auraient littéralement sonné. Parmi ces roches se distingue une pierre qui chante à l'étrange profil. Ce lieu, donc, chargé d'une puissante énergie cosmotellurique, était autrefois un lieu de culte sacré. La chrétienté ayant succédé à la religion païenne des temps anciens, une petite chapelle a été édifiée. Il y a plusieurs siècles, en contrebas de ces roches pour recueillir ceux qui avaient été un peu trop bousculés par leur puissante énergie. Alors que conclure ? Le Massif central est une magnifique terre de légende, au somptueux paysage, mais où le surnaturel et l'inexpliqué font souvent irruption. Dès lors, les deux avions de chasse ont-ils réellement été affectés de pannes techniques qui auraient provoqué leur chute brutale, ou bien auraient-ils au contraire été la proie d'un tout autre phénomène ? Le mystère reste entier. Et ce n'est évidemment pas les autorités qui se risqueront à communiquer sur le sujet. La désorientation spatiale d'un pilote en guise d'explication sera toujours préférable pour tout le monde. Pour les autorités, mais aussi pour les populations qui ne souhaitent pas vraiment voir remise en question leur perception du monde. On fait une petite pause musicale. Vous êtes bien sur CFM Radio 90.2 dans l'émission Au plus profond des ondes. Deuxième enquête. Dossier OVNI, les dossiers secrets du KGB. Le dossier des OVNI n'en finit pas de réserver des surprises. Depuis la chute du mur de Berlin, les informations ufologiques en provenance des pays de l'Est et de la Russie émergent, ne laissant aucun doute sur l'implication des services de renseignement soviétiques dans le dossier des OVNI. Alors, manipulation ou rapport authentique ? Poursuivons l'enquête. Alors que la Russie et les USA viennent de procéder à un échange d'espions comme un retour aux plus belles heures de la guerre froide, la dernière information en date concernant affaires de renseignement et dossiers OVNI remonte au 25 mai 2010 via une dépêche d'information. Maria Belova-Ivan, scientifique russe, est décédée le 6 mai au laboratoire américain d'accélération de particules, à la suite d'une chute, selon les autorités américaines. Maria Belova-Ivan, titulaire d'un doctorat, était l'une des 45 scientifiques invités au Fermi National Accelerator Laboratory situé à Batavia, en Illinois. Des lésions traumatiques au cou, au dos et à la poitrine seraient la cause de sa mort. Le laboratoire US dont il est question travaille sur les armes spatiales. Un rapport russe du renseignement militaire, la direction des affaires étrangères de l'état-major soviétique, parle d'assassinat d'un de leurs agents enquêtant sur les armes spatiales US. Le rapport va plus loin, précisant que le docteur Belova-Ivan travaillait sur le programme Interdimensional Space Communication et ses dangers pour la Terre. Plusieurs publications existent sur ce programme, sans vraiment de détails évidemment. Nous sommes dans le domaine de la recherche militaire, dont les informations sont extrêmement filtrées, vous vous en doutez. Le programme Interdimensional Space Communication n'est pas sans rappeler celui annoncé par le président Ronald Reagan sur la guerre des étoiles. Il s'agit du programme américain de défense antimissile nommé officiellement Initiative de défense stratégique, l'IDS, qui a été lancé le 23 mars 1983. L'IDS est un réseau de satellites dont le rôle est la détection et la destruction de missiles balistiques lancés contre les États-Unis, missiles terrestres ou corps étrangers en provenance de l'espace. Le département US de la Défense est toujours resté flou sur le fondement de l'IDS. Révélation au sommet. Des dirigeants russes ont-ils été témoins de phénomènes OVNI ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la réponse est oui. Fin mai 2010, une information est relayée par la presse source agence ASEM AVCE avec le titre accrocheur « Le président qui a rencontré les extraterrestres ». Le président de la Kalmoukie, une petite république autonome de la Russie, a déclaré avoir rencontré des extraterrestres. Alerté, un député russe a demandé au président Medvedev de lancer une enquête. La rencontre du troisième type. Kirsan Ilyumijov, qui dirige d'une main de fer la Kalmoukie, une république russe riveraine de la mer Caspienne, a souvent raconté avoir rencontré en 1997 des extraterrestres et participé à un vol pendant quelques heures avec eux. Une histoire qu'il a répétée fin avril à la télévision russe. Kirsan Ilyumijinov, qui dirige la Kalmoukie depuis 17 ans, assure depuis une dizaine d'années avoir rencontré les petits hommes verts en scaphandre jaune avec lesquels il a communiqué par télépathie avant de faire un tour avec eux à bord de leur vaisseau spatial, une sorte de tube semi-transparent. Un député russe a appelé les autorités du pays et, afin de s'assurer de la santé mentale de l'excentrique président, évident. Je vous prie d'indiquer si le chef de la République de Kalmoukie a fait un rapport à l'administration présidentielle au sujet de ses contacts avec une civilisation extraterrestre, a lancé Andrei Lebedev, député du parti ultranationaliste LDPR. Si c'est une blague, je ne la comprends pas, a-t-il par ailleurs déclaré. Âgé de 48 ans, Kirsan Ilyumijinov est aussi président de la Fédération internationale d'échecs depuis 1995. Fan de ce jeu, dont il a été champion Kalmouk, Il voit sa république en majorité bouddhiste comme le centre mondial des échecs et a fondé près de sa capitale, Elista, la Cité des échecs, un complexe immobilier consacré au jeu. Les archives du KGB. En fait, il faut remonter à 2009 pour apprendre que le KGB ouvre une partie de ses archives. C'est le site ExoContact qui publie l'info. Le 28 juillet 1989, sur la base de Kapustin Yar, région d'Astrakhan, vous me pardonnez un peu la prononciation de ces lieux, mais je ne suis pas russe, aux environs de minuit, des sentinelles de deux unités militaires ont observé pendant 2 heures, à des distances différentes, un objet volant non identifié. Ceux qui se trouvaient plus près de l'objet ont réussi à le dessiner. Ils sont reproduits sur certains supports, les dix dessins de ces militaires qui ont pu croquer à la va-vite l'objet. Le lieutenant Voloshin, technicien de liaison, dit ceci. Pour observer l'OVNI, je m'installais sur la tour aux antennes à une hauteur de 6 mètres. Dans le ciel nocturne, je distinguais nettement un puissant signal clignotant qui ressemblait à une série de flashs. L'objet survola les ateliers, se dirigea vers les stocks de missiles qui se trouvaient 300 mètres plus loin. Là, il se mit en vol stationnaire en descendant à une altitude de 20 mètres environ. L'OVNI projetait une lumière vert pâle qui rappelait la luminescence du phosphore. Il avait la forme d'un disque de 4 à 5 mètres de diamètre, surplombé d'un hémisphère. Pendant que le disque se trouvait en vol stationnaire, un faisceau de lumière intense jaillit de sa partie inférieure et fit 2 à 3 ronds. Puis l'objet volant repartit en direction de la gare ferroviaire, mais revint peu après et se plaça de nouveau au-dessus du stock de missiles, cette fois-ci à une altitude de 60 à 70 mètres. 2 heures après le début de l'observation, l'OVNI s'en alla en direction d'Aktundisk et disparut. Les flashs provenant de la partie inférieure du disque n'étaient pas réguliers. On eût dit que l'OVNI prenait des photos. Il se déplaçait tantôt par saccades en faisant des évolutions rapides, verticales ou obliques, tantôt par des mouvements uniformes interrompus de temps en temps par des vols stationnaires. Sa silhouette, celle du faisceau qu'il projetait, sont représentées sur le dessin. À environ 3 kilomètres de moi, dit le caporal Levin, j'aperçus un ovni clignotant. À l'endroit même où il se mit en vol stationnaire, je vis un faisceau lumineux jaillir du sol et faire des mouvements à droite et à gauche. Un autre objet apparut et se mit à monter. Au fur et à mesure de son ascension, la lumière qui émanait se faisait de plus en plus faible. Au bout de 2 heures d'observation, j'aperçus un troisième objet à une altitude de 300 à 400 mètres. Il projetait une lumière clignotante rouge. Soudain, une suite de feux, pareille à une guirlande d'ampoules sur un arbre de Noël, parcourut son périmètre et je vis qu'il avait la forme d'un cigare. Le cigare s'approcha du premier ovni et ils disparurent ensemble au-dessus de l'horizon. La source de ces témoignages proviendrait de Vladimir Zamoroka, docteur en sciences, et serait tiré de documents déclassifiés des archives du KGB. Le rapport Cometa, le comité d'études approfondies présidé par le général Denis Letty, reprend cette information, ce qui lui donne une bonne crédibilité factuelle. On se souvient que le rapport Cometa a été rédigé par des membres de l'Institut des hautes études de la Défense nationale, basé à l'école militaire à Paris et dépendant du Premier ministre. En fait, les archives du KGB ont été rendues publiques pour partie, à partir de 2008. On apprend que les observations sont notées dans une chemise bleue spéciale, référence au projet Blue Book US, le fameux livre bleu, programme de recherche de l'armée de l'air américaine dans les années 50. Le cosmonaute soviétique Pavel Popovitch a eu accès à ces dossiers en 1991. Il a alors le titre honorifique de président de l'Académie d'ufologie appliquée. Les dossiers qu'il consulte contiennent divers rapports d'observations russes mettant en cause notamment des militaires et des tentatives d'interception. On en prend encore que dès 1968, un groupe d'ingénieurs en aéronautique a envoyé une lettre au Premier ministre soviétique pour obtenir la création d'un groupe de recherche pour l'étude des ovnis. L'Académie des sciences du RSS est alors en charge de la surveillance générale des phénomènes. Une réponse officielle arrive alors au groupe d'ingénieurs leur disant que l'organisation d'un groupe de recherche privé n'est donc pas nécessaire. Dont acte. Le journal papier de la Pravda publie en 2007 plusieurs articles sous le titre « Les secrets des dossiers OVNI du KGB dévoilés ». On est un an avant la déclassification officielle. Le public est-il préparé à certaines révélations ? Sans doute que oui, la Pravda ne publiant rien à la légère, toujours un peu téléguidée par le pouvoir politique en place, comme vous le savez. Mais rien de précis n'est dévoilé. Quelques rapports troublants sont rendus publics. On peut lire ceci, j'ai vu un ovni pour la première fois le 26 avril 1989. Il y avait une grande boule lumineuse survolant la rivière Kama. La boule était rougeâtre, comme entourée d'une ionisation électrique. L'identité du témoin principal est masquée, mais on sait qu'il y a eu, sur ce cas, plusieurs témoins secondaires. Le témoin que nous appellerons Yuri revient à la charge. Il dit ceci. « Je pense à une explication liée à l'antigravité. » Plus tard, avec la chaîne TV à fond de Tovo, j'ai fait un comparatif avec mon observation et ce que l'on peut reproduire dans les laboratoires étudiant les avions circulaires, comme ce qui se fait à l'Académie de l'aérospatiale en Sibérie. Il faut de puissants champs magnétiques. Ceci m'a permis, en médiatisant mon observation, de ne pas être importuné par le KGB. Je pense que le phénomène OVNI n'est pas matériel tel qu'on l'entend, mais qu'il est composé d'une charge ionosphérique, genre de spot lumineux se reflétant en haute atmosphère. Ces spots pourraient apparaître lorsque deux rayons radar se croisent. Il existe tout un pan du dossier bleu du KGB qui explore plusieurs pistes de la physique pour expliquer certaines observations. On y fait allusion aux travaux conduits par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale sur des engins circulaires, véritables soucoupes volantes imaginées par les ingénieurs du Troisième Reich. Quelques révélations de la Pravda. D'autres dossiers plus détaillés émergent, comme celui d'un crash comparable à celui de Roswell. C'est le journal La Pravda, à nouveau, qui rend compte de cet incident. Je cite. Le 29 janvier 1986, à 19h55, cet incident OVNI a eu lieu à Dalnegorsk, une petite ville minière de la Russie. Certains l'ont appelé l'incident de Roswell de l'Union soviétique. Cet incident a été divulgué par un certain nombre d'ufologues russes. En cette froide journée de janvier, une sphère rouge a volé au-dessus de la ville en direction du sud, traverse une partie de Dalnegorsk et s'est écrasée dans la montagne de Yevstyovaya. Vous me pardonnez ma prononciation russe. L'objet vole sans bruit, il est d'environ 3 mètres de diamètre, de forme quasi ronde, très lisse, sans projection ou cavité, de couleur acier. Un témoin oculaire, Gandagov, déclare que la vitesse de l'OVNI était d'environ 15 km/h. L'objet montait et descendait lentement, il semblait chauffer à chaque fois qu'il s'élevait. L'OVNI balançait de haut en bas et tomba comme une pierre. Tous les témoins ont indiqué que l'OVNI semblait en perdition. La plupart se souviennent de deux sauts. Deux jeunes filles se rappellent que l'objet a sauté à 4 reprises. Les témoins ont entendu un bruit sourd. Après être tombé au bord d'une falaise, l'objet a brûlé pendant 1 heure de manière intensive. Une expédition dirigée par Skavinsky de l'Institut de géologie et de géophysique de la branche sibérienne de l'Académie soviétique des sciences a confirmé les témoignages avec une série de tests chimiques et physiques des roches collectées sur le site. Valérie Dulzilny, chef du comité Anomalous Phenomena, a été le premier à enquêter sur le crash. Avec l'aide de ses collègues russes, son compte rendu de l'incident est le plus précis à ce jour. Le docteur Dulzilny est arrivé sur les lieux 2 jours après l'accident. La neige recouvrait la région. Le site du crash, situé sur une partie rocheuse dépourvue de neige. Tout autour du site de roche silice, des morceaux éclatés ont été trouvés. De nombreuses roches contenaient des particules de métal argenté, certains morceaux étaient comme vaporisés. Parfois, ils ressemblaient à des cristaux solidifiés. D'autres fragments étaient comme des billes ou boules de plomb. Aux abords du site, un tronc d'arbre brûlé a été trouvé, dégageant une forte odeur chimique. Un examen plus approfondi des débris a révélé des propriétés très inhabituelles. L'un des minuscules débris, très mince, 17 micromètres, se composait de fibres encore tressées. Les fibres ressemblaient à des fils d'or. Les scientifiques soviétiques de l'Académie des sciences ont analysé toutes les pièces collectées. Sans entrer dans les détails, il suffit de dire que la technologie nécessaire pour produire ces matériels n'est pas encore disponible sur Terre. Pour donner une idée de la complexité de la composition des morceaux, penchons-nous sur les boules de fer trouvées sur les lieux. Chacune d'elles avait sa propre composition chimique du fer et un mélange important d'aluminium, de manganèse, de nickel, de chrome, de tungstène et de cobalt. Ces différences indiquent que l'objet n'était pas seulement un morceau de plomb et de fer, mais d'une construction en alliage hétérogène. Lorsqu'il est fondu sous vide, quelques morceaux seraient étalés sur une base, alors que dans une autre base, ils se formeraient en boule. La moitié des petites billes étaient recouvertes de verre convexe. Ni les physiciens ni les métallurgistes peuvent dire ce que sont ces structures et quelle est sa composition. Il est impossible de comprendre leur structure et la nature de la formation, dit M. Kulikov, un expert sur le carbone de l'Institut de chimie de l'Académie des sciences, URSS. Il a écrit que ce n'était pas possible de se faire une idée sur ces matériaux. Cela ressemble à du carbone de verre, mais les conditions conduisant à la formation ne sont pas connues. L'aspect le plus mystérieux des débris a été la disparition après fusion sous vide d'or, d'argent et de nickel et l'apparition de molybdène. De plus, des cendres d'origine biologique ont été trouvées sur le site, des oiseaux et un chien. L'article du docteur Zulzini a été publié dans un magazine soviétique en Ouzbékistan. Dans son article, il fournit des détails impossibles à trouver ailleurs. La trajectoire sud-ouest de l'OVNI coïncide avec le cosmodrome de Qichang, de la République populaire de Chine, où les satellites sont lancés. Dans le même temps, le journal Xinhua, le 25 janvier 1988, a rapporté une observation d'une sphère rouge brillante non loin du cosmodrome, où il oscilla pendant 30 minutes. Des ovnis avaient manifesté leur intérêt envers le cosmodrome chinois dans les années 1989 et 1988. Il y a un autre détail curieux sur le site. Des petits morceaux de couleur gris clair ont été découverts. Ces échantillons ne correspondent à aucune des variétés du sol de la région. Le site du crash a été actif pendant 3 ans après l'écrasement. Les insectes évitaient l'endroit. La zone a affecté les équipements mécaniques électroniques. Certaines personnes sont devenues très malades. Cette zone russe a présenté de nombreuses anomalies selon un article paru dans le Soviet Digest. Des photos prises sur le site, une fois développées, ne montraient pas la zone. Les membres d'une expédition sur le site ont indiqué que leurs lampes de poche ne marchaient pas. Ils ont vérifié les lampes de poche en rentrant chez eux et découvrir les fils brûlés. Le 8 février 1986, à 20h30, 8 jours après le crash d'OVNI, sur la zone du site, 2 autres sphères jaunâtres volaient du bord en direction sud. Arrivant sur les lieux de l'accident, ils ont fait 4 fois le tour, puis prirent la direction du nord, puis le 28 novembre 1987, une trentaine d'objets volants étaient apparus de nulle part. Il y avait des centaines de témoins, y compris les militaires et les civils. Les objets se déplaçaient sans bruit, à une altitude comprise entre 150 et 800 mètres. Aucun des témoins oculaires n'a réellement pensé que c'était des ovnis. Ils pensaient que c'était des avions impliqués dans une catastrophe ou la chute de météorites. Les objets ont survolé les maisons, ils ont créé des interférences de télévision, de téléphone. Voilà donc un cas concret, une espèce de crash à la russe, un petit peu l'affaire Roswell, mais du côté soviétique, tout à fait intéressant et très intrigant. Évidemment, le KGB renferme dans ses dossiers bien d'autres histoires étranges. Et je vous invite à d'autres histoires étranges la semaine prochaine. Bye bye.